You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Journal des sports, et on commence avec du football et la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end avec de grosses surprises au niveau de la Ligue 1, des clubs de Ligue 1 comme Marseille éliminés. Les explications avec Hugo Moissonnier.
Pour que la Coupe soit pleine, désolé pour le jeu de mots, l'OM doit sa chute à une équipe de National 2, c'est l'équivalent de la 4e division française. Quelle humiliation! Andrézieux s'est imposé donc 2-0 face à Marseille. Andrézieux bien poussé par le public du célèbre stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Saint-Etienne, la ville voisine, un but encaissé en début de match, un autre en fin de partie, et voilà Marseille qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise, en difficulté en championnat, ridicule en Coupe d'Europe. Le club olympien, qui ne gagne plus depuis le 25 novembre dernier, début de 2019, de la pire des manières. Bordeaux doit également son élimination à une équipe plus faible sur le papier. Le Havre, formation de Ligue 2, alors si l'écart de niveau est moins gros, le revers à domicile 1-0 fait mal aux Girondins. Dernier club de l'élite sorti ce dimanche, Nice, surclassé 4-1 par Toulouse, autre pensionnaire de Ligue 1, ça fait moins mal. En tout, 6 équipes de première division garderont un très mauvais souvenir de ces 32e de finale de la Coupe de France 2019, puisque je vous rappelle qu'Angers, Nîmes et Montpellier avaient été sortis ce samedi hier par des formations issues des échelons inférieurs. D'autres clubs de Ligue 1 ont en revanche validé leur billet pour le prochain tour ce dimanche. Monaco, Rennes, Saint-Etienne, Reims et le Paris Saint-Germain qui vient de s'imposer 4-0 sur le terrain de Pontivy en Bretagne. Le Paris Saint-Germain qui a un petit peu tué le suspense dans cette Coupe de France ces dernières années puisqu'il est tenant du titre depuis 2015.
Hugo Moissonnier, alors vous l'aurez compris, Monaco a enfin gagné. Monaco a battu le club du Canet sur le score de 1-0. On écoute Thierry Henry, l'entraîneur monégasque.
On est venu avec une jeune équipe comme on l'a depuis un petit moment. On a très bien commencé le match et après l'expulsion, c'est devenu un vrai match de coupe. Voilà, ça n'a pas été extraordinaire au niveau de la manière, mais personne n'est à l'abri. Donc voilà, on est venu ici, on savait que ça allait être difficile et ça a été difficile, même si c'était 11 contre 10. Mais bon, un vrai match de coupe et on a eu l'opportunité de marquer assez tôt.
Thierry Henry a noté que, en match en retard dans cette Coupe de France, Lille a battu Sochaux sur le score de 1-0. On parle maintenant Dakar, le rallye qui se passe tous les ans en tout début de saison. Vous le savez, alors à l'époque, c'était le Paris-Dakar. Ça partait donc de Paris pour se diriger vers l'Afrique. Ce rallye a été transféré vers l'Amérique latine. Et une des légendes du Paris-Dakar de l'époque et du Dakar à l'heure actuelle, c'est Stéphane Peter-Hansel. Il a gagné le Dakar à multiples reprises. Et on l'écoute sur les difficultés justement du parcours cette année, des différences entre faire la compétition en Afrique et en Amérique latine. Stéphane Peter-Hansel.
Ce qui nous rappelle aussi les grands espaces africains, les grands déserts, les grandes dunes, c'était la Mauritanie. Mais en fait, si on veut en Amérique du Sud retrouver un peu le même décor, c'est du côté du Pérou qu'il faut aller traîner.
Mais le sable est différent, est plus technique, plus difficile.
Ouais, alors bon, aussi en Afrique, on avait quand même, c'est suivant les températures, c'est suivant les vents qui accumulent du sable frais. Et ça, je crois que dans tous les déserts, il y a des surprises dans les dunes, ça c'est sûr. L'année dernière, on a passé une semaine au Pérou. Toute la première moitié de la course était uniquement au Pérou. Et pour nous, ça s'était super bien passé. On était sortis de cette première semaine en tête de la course avec un bon écart sur nos poursuivants. Malheureusement, c'était la Bolivie qui nous avait un peu moins souri.
Voilà donc Stéphane Peter-Hansel. Reportage maintenant d'Éric Sanson qui nous parle de la 41e édition depuis le Pérou. Éric Sanson.
Sur la piste surchauffée de la base de Las Palmas de l'armée de l'air péruvienne, les avions de chasse ont laissé la place aux véhicules du Dakar. Christian Lavieille fait partie de la liste des pilotes d'élite du rallye, avec déjà 16 participations, 3 top 10 et une victoire en catégorie marathon il y a 2 ans. Après avoir abandonné l'an dernier, il revient avec des ambitions intactes.
L'objectif cette année, c'est de regagner la catégorie. Sportivement, je pense que ça va être très bien, ça va être difficile parce qu'il y aura beaucoup de dunes, beaucoup de franchissements. On sait qu'ici au Pérou, les dunes sont assez compliquées.
Tous les concurrents du Dakar n'ont pas le podium comme objectif, encore moins le chronomètre. C'est le cas de Gérard Tramoni. Né à Ajaccio, ce médecin anesthésiste à Lyon a d'abord accompagné les équipes médicales du rallye. Membre de l'association L'Enfant at l'Hôpital, qui médicalise des événements sportifs, sa motivation est d'abord de remonter le moral de ses enfants médicalisés qui le connaissent comme Doc Dakar.
Vraiment du bien-être psychologique, ils ne pensent pas à leurs soins, ils pensent à autre chose dans leur longue journée d'hôpital où ils s'ennuient. Ils m'envoient des messages et je m'engage à répondre à 100% de leurs messages. Des messages d'enfants, comment tu te laves, comment tu manges, est-ce que c'est dur la course, peux-tu me prendre en photo une moto verte, voilà.
Né à Poitiers, Charlie Hertz fêtera ses 26 ans la semaine prochaine, quelque part dans le désert péruvien. Ayant commencé le motocross à l'âge de 5 ans, c'est son premier Dakar, mais il a de qui tenir. Son père, qui l'accompagne au Pérou, vient de boucler un tour du monde à moto de 64 000 km. Charlie, tout rookie qu'il soit, s'estime bien préparé.
Avant, voilà, on avait juste besoin d'avoir les budgets, on pouvait partir et aller en Afrique. Pour ça, je le fais ou pas. Et maintenant, voilà, ils demandent d'avoir un certain niveau à valider, justement. Donc, on est obligé de passer par la case, de faire un des 5 championnats du monde, voilà, de rallye. Même pour nous, je trouve ça bien. Ça nous permet déjà de mettre un premier pas sur la navigation. Puis c'est vrai que ça roule vite, hein, quand même. Donc, ça nous permet de savoir vraiment dans quoi on met les pieds, quoi.
Claude Fournier, lui, n'est plus un rookie, mais n'en est tout de même qu'à son deuxième Dakar. Viticulteur de Sancerre à la retraite, son palmarès est impressionnant. Il a gagné la catégorie rookie des débutants lors de sa première participation en Afrique en 1991. À 67 ans, il n'est pas là pour faire de la figuration.
J'étais champion du monde l'année dernière en rallye raid. Et cette année, j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Qatar, j'ai fait le Kazakhstan, vous voyez des dunes. Hein. Je pense que ça va être très dur, plus concentré. 80% dans les dunes, on est tout le temps en apnée. Hein.
Éric Sanson pour RFI. Et un mot de handball pour conclure ce journal des sports. Philippe Bana, le directeur technique, revient sur la position actuelle du sport où la France domine littéralement le sport à la fois chez les hommes et chez les femmes. Et pour Philippe Bena, il y a bien une raison à ça, on l'écoute.
Il n'y a pas que du handball en France, il y a du handball partout. Il y a tous ces territoires d'outre-mer, en plus que de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion et de l'océan Indien, des Antilles-Guyane, on voit arriver toutes ces filles formidables comme Orlane Canor et bien d'autres qui arrivent derrière, qui sont cette formidable idée que la France est partout dans le monde et qui donne cette valeur à l'équipe de France féminine.
Et le grand artisan de cette excellence, évidemment, du côté des filles, c'est Olivier Krumbholz. Son retour aux affaires en 2016 a coïncidé justement avec cette nouvelle grande série de performances. Ça aussi, ça vient quand même du fait que Olivier Krumbholz a aussi changé sa méthode de management, parce que sinon, on ne serait peut-être pas forcément là.
Ce qui marchait dans le début des années 90, dans le début des années 2000, c'était effectivement rigueur, sérieux, combat, collectif. À un moment donné, quand ces filles ont été devenues professionnelles, il a fallu véritablement inventer là aussi la même histoire qu'en garçon. Comment on collabore? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est le tissu? C'est vous les propriétaires de cette équipe, faites-en quelque chose. Il a su amorcer ce virage à son retour en 2016. Et du coup, on a obtenu, à une allure beaucoup plus rapide que celle des garçons finalement, le même type de résultat, parce que les gens étaient propriétaires de l'équipe de France.
Philippe Bana sur RFI. Voilà, c'est tout pour le journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants pour décrypter l'actualité en France de cette semaine. Mais c'est tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.